Merci à tous d'être toujours aussi nombreux pour les conférences. Nous avons, non pas une conférence, mais encore un entretien, cette fois-ci avec Dimitri Gloukovski, qui est ici présent. Bien qu'il soit russe, il assurera cette conférence en français. Son français est plutôt parfait, donc voilà, on va discuter en français et puis revenir sur toute son œuvre et tous ses talents et ses nombreuses activités. Donc Dimitri, tu es connu majoritairement pour être l'auteur de la saga Métro 2033-34 et aussi l'initiateur de tous ces romans qui se sont greffés à cet univers par différents auteurs, qu'ils soient russes, italiens, anglais, je crois, anglophone pour certains. Ma première question est comment en es-tu venu à l'écriture ?
Bonjour, mesdames et messieurs. Bon, je vais carrément faire l'effort pour parler français. Ça va être pas facile. J'espère que mon vocabulaire va me suffire. Et donc, je demande de ne pas me juger trop strictement. Alors, à la question. En fait, je peux pas discerner le moment quand j'ai commencé à écrire. Ma maman me dit que c'était à l'âge de 2 ans et 7 mois. Et c'était un bouquin au début qui était dédié au destin triste du grand poète russe Alexandre Pouchkine, qui a été tué en duel. Et voilà, donc j'étais tellement impressionné et déprimé par cette nouvelle que j'ai décidé y consacrer en livre. Et voilà, et c'était un livre qui consistait plus ou moins de 5 mots, et c'est perdu maintenant pour l'histoire et pour l'humanité, malheureusement. Puis j'ai décidé de suivre ce chemin, et j'ai continué à écrire des différents roman idiot pendant mes années scolaires. Et j'ai jamais cessé. Et le bouquin qui s'appelle Métro 2033, lui, en fait, il a été, comment je dirais, l'idée de cette œuvre, j'ai eu quand j'avais 15 ans. J'étais à la 10e classe, école russe. Et puis, donc, c'est pendant mes années d'université que j'ai vraiment écrit cette pièce, cette œuvre, elle a été publiée pour la première fois, je l'ai publiée en ligne, après être rejeté par les éditeurs, quand j'avais 22 ans, 23 ans, c'était 2002. J'ai créé un site web et j'ai mis tout le contenu du bouquin gratuit en ligne sur ce site-là. C'était il y a 12 ans. On n'a toujours pas très beaucoup de monde qui ose le faire maintenant parce qu'ils ont peur que quelqu'un puisse enlever ou copier-coller ou truc comme ça. Au moins, on n'est pas payé. Moi, je m'en foutais complètement et je m'en fous toujours.
Quelles ont été les premières réactions à la publication en ligne ? Le succès n'a pas été forcément immédiat ou il y a eu un engouement quand même ?
Non. Moi, j'ai... il y a une expression anglaise, « to wake up famous ». Se réveiller célèbre. Moi, je peux pas en fait nommer le moment quand je me suis réveillé célèbre. Je crois pas. J'espère que ce moment va arriver bientôt, mais pas encore. Donc c'était un processus très long et assez difficile, je dirais. Et vraiment, la journée quand j'ai lancé le site web sur lequel j'ai publié le roman, j'ai eu plus ou moins un visiteur. C'était moi-même. Dans une semaine, j'en ai eu 2. C'était moi-même et quelques pauvres qui se trompaient. Voilà, donc après des semaines et semaines d'essayer d'attirer l'attention du lecteur en copiant le lien sur le site différent des amateurs de science-fiction, j'ai eu plus ou moins 10 visiteurs par semaine. Après, ce nombre... commencé à croître et je suis parvenu, je crois, plus ou moins à 25 000 au bout d'un moment que le livre était déjà terminé et que j'ai décidé de m'adresser encore une fois aux éditeurs qui avaient déjà rejeté il y a en 2 ans avant. Donc cette fois, vu que je suis venu avec mon propre public, ils ont changé d'opinion, ils ont dit bah, tiens, il doit avoir quelque chose dans ce bouquin-là. S'il y a des dizaines de pauvres trompés qui veulent, qui insistent que ça soit publié et qu'ils puissent le tenir dans leurs mains. Voilà, donc c'était l'histoire.
Et Sigfager recadré, pour ceux qui ne connaissent pas Métro, l'univers de Métro, c'est quand même un univers post-apocalyptique qui se passe intégralement dans Métro Moscovite. Et d'où te vient l'idée de cet univers? Comment tu as... D'où t'es venue l'idée de faire vivre les gens dans le métro, de créer cet univers qui est quand même un melting pot de gouvernement, de fédération, d'idéologie politique? Comment tu as créé tout ça et d'où ça vient en fait?
Bon, ouais. Maintenant, j'ai, un peu trop tard, j'ai eu l'idée de lancer une présentation du monde, de l'univers de Métro 2033 sur l'écran. Mais j'en ai pas, donc je la lance pas. Voilà. Par contre, je peux la présenter de trois mots. L'idée de roman Métro 2033, c'est les conséquences d'une guerre atomique qui détruit le monde. J'ai eu l'idée pour la première fois, c'était l'année 1995. L'idée est toujours très actuelle, très importante, très relevante. Aujourd'hui, grâce au soutien de relations publiques que le président russe me fournit, c'est toujours une idée très actuelle et très importante. Je crois que le monde est toujours très bien capable, l'humanité est toujours très bien capable de se détruire et de nous tous lancer en air d'une façon très efficace. Nous ne sommes pas rapprochés d'une paix mondiale en seul, je ne sais pas, centimètre depuis de la fin de la guerre froide. Donc l'idée de Métro, c'est qu'une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale se passe, l'humanité est presque détruite et toutes les grandes villes sont devenues des ruines, et voilà, et la seule place où les gens peuvent encore survivre, ce sont des catacombes, des tunnels et des stations du métro moscovite. Il faut bien sûr que le métro moscovite, c'est une des choses que les Européens connaissent de la Russie, ensemble avec le Transsibérien. Donc le métro de Moscou, c'est une structure qui a été en fait planifiée et construite comme en grand bunker anti-nucléaire contre les bombardements des missiles nucléaires. Voilà. Et donc les stations se trouvent sur la profondeur des dizaines de mètres, certaines centaines de mètres, et chaque station est en fait en petits bunkers séparés qui peut devenir vraiment isolé, hermétisé, voilà, et qui puisse permettre aux survivants d'un bombardement atomique, d'une guerre atomique, de continuer à survivre pendant des années. Donc moi, j'ai décrit un monde dans lequel la surface est absolument la surface est absolument inhabitable, contaminée par la radiation, habitée par des monstres créés par cette radiation, des mutants. Et voilà. Et la seule place où les gens peuvent toujours survivre, c'est les stations équipés, devenus bunkers, équipés par des filtres, par des portes hermétiques, voilà. Et donc, après quelques années, le système central du gouvernement tombe, s'écrase, n'existe plus, et les stations deviennent des états, des petits cités-états qui commencent à avoir une compétition, des guerres entre elles, et voilà. Et donc, et c'est le seul endroit, ce petit modèle de l'ancien monde, c'est le seul endroit où les gens survivent encore. Moi, personnellement, j'ai eu cette idée parce que mon école à Moscou se trouvait à une grande distance de ma maison. Je devais faire une heure plus ou moins de voyage quotidien pour venir de ma maison à mon école et pour rentrer. Voilà, donc, et après, un jour, j'ai découvert que le métro moscovite, c'est le bunker, et j'ai commencé à regarder vraiment dans l'ombre des tunnels, dans l'obscurité, quand le train se passait. Et j'ai découvert des ouvertures mystérieuses, des portes fermées. Et comme ça que je commençais à m'intéresser à ça. Et j'ai découvert en fait que, à part des 1040, 1060 peut-être stations officielles, officiellement connues de métro moscovite qui existent, il y a encore plus ou moins 200 quasi-stations de bunkers, des espaces secrets qui sont aussi connectés au réseau des tunnels, mais sont fermés pour le public. Et les portes sont presque condamnées, jamais ouvertes. Voilà. Et ça doit devenir en vrai l'arc de Noah pour le cas d'une deuxième fin de monde. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup passionné et j'ai pu pas résister à commencer à m'imaginer qu'est-ce qui peut arriver et comment serait le modèle de société. Est-ce que l'humanité peut vraiment apprendre des leçons après avoir détruit le monde entier? Est-ce que l'être humain est capable de changer? Est-ce que après la fin du monde, ce qui reste du monde va répéter toujours éternellement des fautes qui ont en fait amené l'humanité à cette tragédie? Voilà, donc c'était l'inspiration. Bien sûr, j'étais passionné pour certaines œuvres post-apocalyptiques. C'était pas moi qui ai inventé le genre, malheureusement. Et j'étais, il y avait des
Est-ce certains... que tu peux nous donner des titres?
Oui, il y avait certains bouquins par des fantasmes des auteurs science-fiction soviétiques, des frères Strugatsky, le mieux connu pour le bouquin qui s'appelle Roadside Picnic.
Pique-nique au bord du chemin pour.
Voilà, pique-nique au bord du chemin, ouais, qui est devenu Stalker, voilà, c'est ça, qui est déjà très post. Apo, abandonné, des espaces abandonnés, une ville qui une fois était voilà, une ville habitée, maintenant c'est juste habité par des monstres, etc. Et des phénomènes inconnus, dangereux, etc. Voilà donc. Et après, on peut, des auteurs science-fiction américains, il y avait des. Quand j'étais plus petit, j'avais une certaine passion pour Zelazny. Après, j'étais un peu déçu pour ce tour-là, mais je garde toujours une grande passion pour Bradbury, donc on ne peut pas condamner tous les tours américains. Voilà donc, et certains jeux vidéo, j'appartiens déjà à la génération qui a joué, donc c'était Fallout, clairement. Le premier jeu qui, je crois, a fait plus pour contaminer les gens avec la passion pour le genre post-apocalyptique que beaucoup de films ou de certains livres. Et j'ai décidé en fait d'implanter l'idée de post-apocalypse sur la Terre, ou plutôt sur le souterrain russe, et voilà, et donc essayer de voir ce qui se passe. C'est ça l'inspiration.
Tu parlais justement de jeux vidéo. Il se trouve que Metro 2033 a été adapté en jeu vidéo avec deux jeux, Metro 2033 et un autre qui a suivi Metro 2000. Je ne sais plus le titre, Metro 2000.
Il y avait un jeu qui s'appelait Metro 2033. Et il y avait une suite qui s'appelait Metro Last Light, la dernière lumière.
Comment ça s'est passé? On t'a contacté directement, tu as participé au projet ou
Ouais, donc moi, je n'étais jamais contre transformer mon sujet en jeu vidéo. Je pensais que c'est quelque chose de très naturel, ça serait quelque chose de très naturel de le faire, parce que l'histoire et les sujets se passent dans les tunnels, les stations, ça se transforme très facilement. Et j'ai jamais méprisé les jeux vidéo. Je pense bien que les jeux vidéo peuvent très bien être en œuvre d'art, et même en chef-d'œuvre. Ça dépend de qui est-ce qui le fait et comment est-ce qu'ils le font. C'est juste une forme relativement neuve, nouvelle. Donc, comme toutes les formes d'art nouvelles, ça peut être vulgaire. Et au début, dans beaucoup de cas, c'est utilisé pour juste divertir le public d'une façon assez primitive. Et c'était ça avec le théâtre sur les places de marché en Europe du Moyen Âge. C'était ça avec les premiers films cinéma. C'est utilisé aussi pour les comédies assez bêtes, pour le porno, n'importe quoi. Mais en maturant, une nouvelle forme d'expression artistique devient plus et plus compliquée. Donc c'est ça qui s'est passé en fait à travers de ces années avec les jeux vidéo aussi. Donc par contre, il y avait depuis toujours des vrais maîtres comme Benoît Sokal par exemple avec la Sibéria, voilà, qui ont dès le début, d'une façon plutôt visionnaire, projeté comment les jeux déjà à l'époque, dans les années 90 quand même, peuvent être très impressionnants du point de vue artistique. Donc voilà, j'hésitais pas. Et un autre détail intéressant, c'est que en fait, les développeurs du jeu, les créateurs du jeu, m'ont retrouvé sur ce site gratuit, sur l'internet, des années avant que le bouquin soit publié. Donc c'est grâce à cette distribution gratuite, open source de texte que je lançais juste pour être lu, ne pas prenant soin de ce que je vais ou vais pas gagner. C'est grâce à ça qu'en fait Metro a gagné son succès commercial, parce que le fait d'avoir un jeu adapté du roman, ça a beaucoup promu quand même le bouquin partout, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et couramment, Maître 2033 est traduit en 37 langues. J'étais prévenu que avant-hier, une édition pirate a été lancée en Iran, sans droit d'auteur ni rien, parce qu'ils disent « Ah bah non, on est embargo, quoi. Nous, on publie ce qu'on veut. » Voilà, c'est comme ça. Je dis « Bon, je suis très fier que dans votre république... Maintenant, les gens vont avoir l'accès à ces grandes créations du progrès littéraire, qui est mon bouquin. En Arabie Saoudite, par contre, il était interdit. Ouais, parce que les gens survivent dans les tunnels et stations de métro. Ils ont des cochons comme des bêtes domestiques. Voilà, ils ont des certaines stations qui sont des fermes. Et il y a un des personnages qui dit que les cochons sont devenus nos partenaires pour la survie. Et ça a beaucoup insulté le ministère de la culture saoudite. Ils ont dit non. Ils ont d'abord acheté les droits et puis on peut rien dire parce que le ministère de la culture nous a interdit carrément de publier parce que ça insulte les sentiments religieux des musulmans. En Arabie Saoudite, mais pas en Iran par contre. Donc c'est la différence entre le chiisme et le sunnisme, il paraît. C'est mon bouquin.
Et tu as récemment, tu as depuis quelques années ouvert l'univers de Metro à d'autres auteurs. Comment ça s'est passé? D'où est venue l'idée? Comment ça se passe du coup? Est-ce qu'il y a une bible de l'univers? Comment tu fonctionnes avec les autres auteurs?
Voilà, effectivement, Metro 2033, c'est pas juste un bouquin seul. C'est une série en fait. C'est une, en termes. On peut péjoratif, une franchise. c'est un projet dans lequel les autres auteurs peuvent participer. Donc l'inspiration venait de mon enfance. J'étais un grand lecteur de science-fiction quand j'étais petit, et souvent quand je tombais amoureux d'une histoire ou une autre, je pensais que c'est très dommage en fait que juste un auteur qui décrit cet univers imaginaire, que ce soit pas, que ce serait pas des nombreux auteurs qui décrivent le même, je dirais pas monde post-apo, mais un système des étoiles, voilà. Et ça serait bien, je pensais à l'époque, d'avoir des certains auteurs qui écrivent sur des planètes d'un côté, d'autres auteurs qui écriveraient des planètes d'autre côté, qui ont des guerres entre eux, quelque chose comme ça, voilà, pour qu'on puisse lire ça sans cesse. Pardon?
On appelle ça un univers partagé du public.
Mais à l'époque, je connaissais pas de tels projets, malheureusement. Donc, après avoir un certain succès avec Maître 2033, j'ai pensé que pourquoi est-ce que pourrais-je pas lancer un truc pareil avec mon propre univers? Parce que déjà, il y avait pas mal de lecteurs qui commençaient d'écrire leur propre fanfiction basée sur l'histoire de Métro, basée à Moscou, dans les autres villes et villages, pas nécessairement en Russie. Donc je pensais, voilà, c'est juste, il me demandait d'écrire une continuation en sequel. Moi, je n'étais pas carrément prêt à l'époque, donc j'ai décidé d'ouvrir l'univers comme un projet pour tout le monde à y participer. J'ai invité d'autres auteurs, les débutants et les professionnels, pour me joindre. Et ils pouvaient décrire leur propre ville et pays dans leur propre main, en leur propre langue. C'est un projet international. Et voilà, donc depuis, c'était lancé à l'année 2009. Ça fait déjà, donc on va célébrer 5 ans cette année. Et depuis le lancement, on a publié 5 ans livres en russe. Des meilleurs ont été traduits dans notre langue. Il y a 2 bouquins publiés en France par l'Atalante, l'édition Atalante. Il y a, je crois que 8 publiés en Allemagne, 8 publiés en Pologne, puis l'Espagne, l'Italie, l'Hongrie. Et là, juste après ce festival, je vais aller à la Corée du Sud, pour l'instant, pour promouvoir le lancement de l'univers, des bouquins de l'univers dans leur pays. Donc il y a 2 auteurs différents qui écrivent l'histoire qui se passe dans leur village et ville. Et des fois, donc c'est toujours la même année, c'est toujours l'année 2033. C'est toujours le même monde, le même univers cohérent, interconnecté. Et chacun a son caractère. Et les gens ne peuvent pas, sans accord de l'autre auteur, toucher les caractères, les destins des caractères de l'autre auteur.
Des personnages, pour ceux qui n'avaient pas suivi.
Voilà, donc c'est un système... Je dirais que c'est un système, on peut open source et on peut baser sur le, c'est un peu crowdsourcing. Donc ça se base sur les lecteurs, sur les fans. Et une moitié des bouquins qui ont été publiés en Russie, donc 25 plus ou moins, c'est écrit par les débutants qui pouvaient avoir une compétition sur le site web, sur le portail de notre projet maître2033.ru. Et les gagnants ils gagnaient en fait la publication, une publication de leur bouquin, comme en vrai livre. Et voilà, les meilleurs ont vu leur livre traduit dans notre langue. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a pas mal d'écrivains contemporains russes qui ne peuvent pas être traduits en notre langue, qui ne sont pas connus en dehors de Russie. Et moi, à cause du succès commercial de Métro, j'ai pu ouvrir un peu cette porte à l'Occident et de lancer des certains bouquins des auteurs même débutants en Allemagne ou en France ou en Espagne, en Italie, etc. Donc c'était très intéressant et ça continue toujours. Donc on a publié des livres des écrivains, pas seulement russes, mais les Italiens, des Polonais, anglais. Là, il y a un livre cubain qui a été écrit, qui attend d'être publié. Voilà, donc c'est des Allemands et peut-être des Chinois sont en attente. Donc c'est quelque chose. Je pense pas que ça soit vraiment un truc commun à faire. On connaît bien les franchises américaines, mais c'est toujours un grand brand qui vient du cinéma et qui est toujours écrit par le mercenaire indifférent américain et qui s'en fout des destins, des caractères parce qu'ils sont pas leur caractère. Dans notre cas, c'est les gens qui inventent leur caractère, qui ne touchent pas les caractères d'autres auteurs et qui, pour la plupart, le font de leur passion pour ce monde post-apo.
Et te concernant personnellement, est-ce que tu as l'intention de réécrire des livres dans l'univers de Métro?
Réécrire?
Enfin, continuer à écrire des...
Continuer à écrire, ouais. Mais, là, pour l'instant, en Russie, j'ai publié l'année dernière un livre qui est complètement différent de Métro, de Saga de Métro. C'est un bouquin qui parle de l'éternité, d'une vie éternelle, de choix entre les enfants, une possibilité d'avoir les enfants et une possibilité de vivre toujours en restant éternellement jeune, qui s'appelle Futur. Donc, ça va être publié ici en France l'année prochaine, en avril, je pense. Et là, je suis en train d'essayer de finir le saga de Métro en écrivant le bouquin qui s'appelle Métro 2035. Voilà, ça serait la vraie fin de l'histoire de Métro. Et c'est après 10 ans d'avoir publié le premier livre que j'y reviens, avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de savoir-faire, j'espère. Voilà, pour terminer toutes les lignes qui ont commencé dans le premier livre, qui était un peu spontané. Et maintenant, je crois que je sais finalement comment les ramener à une finale.
Tu viens de publier un nouveau roman. Enfin, un nouveau roman a été publié aux éditions Gatagrande qui s'appelle Sumerki, qui est totalement radicalement différent. Merci Dimitri de le montrer au public. Qui s'ancre vraiment dans un paysage moscovite beaucoup plus contemporain, avec des thématiques beaucoup plus contemporaines, l'histoire d'un traducteur qui va s'acharner à traduire un texte espagnol qui parle des Mayas et plus ou moins d'une expédition. Comment tu t'es inspiré pour... Est-ce que la transition n'a pas été dure de passer du post-apocalyptique à quelque chose de plus contemporain ?
Bon, moi, depuis toujours, j'ai eu une grande peur. Avant de commencer à écrire, j'ai eu une peur de devenir un auteur juste dans seul bouquin, d'être reconnu pour le reste de ma vie pour le premier bouquin que j'écrivrai. Donc, déjà, en écrivant Maître 2033, j'ai eu cette idée de quelque chose de très différent, qui n'est pas vraiment science-fiction, qui est plutôt un mélange étrange de métaphores et de réalisme magique, avec un peu de, comment dire, ma reconnaissance personnelle aux auteurs qui m'ont beaucoup inspiré quand je faisais mes études à l'université, des auteurs sud-américains comme Borges, Cortázar, Marquez, voilà, un peu de Pérez Reverte aussi. Donc je voulais faire quelque chose de très très différent, pas juste seulement pour me distinguer du premier roman, mais parce que j'avais un sentiment, une idée que je voulais exprimer. Donc c'est absolument naturel pour moi que j'écrive quelque chose de très différent, parce que je me vois même pas comme auteur, tout le monde le dit, je crois, comme l'auteur de science-fiction. Je veux avoir la liberté de faire des expériments avec des genres, quoi, m'essayer dans les directions très différentes, dans les genres, dans les champs très différents, je dirais. Donc voilà, c'est ce bouquin, pour moi, c'est juste un autre pas dans la recherche de moi-même, de la littérature, dans l'essai de comprendre comment on pourrait écrire, et qu'est-ce qu'on peut écrire et pourquoi les gens écrivent.
Et l'inspiration des Mayas et de la fin du monde, ça devient d'où ?
C'est parce ça vient de ma passion. Moi j'avais, quand j'étais plus jeune, j'avais une grande passion pour l'Apocalypse. Et ça se voit. Vu que de mes 5 romans, 3 sont dédiés au thème d'Apocalypse et post-Apocalypse. C'est pas forcément parce que je suis une personne très sombre et pessimiste, mais ça m'a passionné beaucoup, je sais pas pourquoi. Donc à l'année 2005, quand je commençais à écrire ce roman, il n'y avait pas encore cette hystérie globale pour l'année 2012 avec les Mayas, etc. Il y avait une prédiction, mais les gens pensaient beaucoup plus de fin de monde à cause de la faute de K, 2000, la faute 2000, je ne sais pas comment ça se dit en français.
Le bug de l'an 2000.
Voilà, back to K. Et alors, pour moi, c'était pas un truc de conjoncture, c'était pas un truc de culture de masse, pas un truc commercial. Mais juste, je pensais que voilà, ça serait un bon prétexte de parler de comment le monde se prépare à se terminer. Et le sujet donc de Sumerki, c'est un traducteur moscovite qui un jour reçoit en ordre de traduire un ancien manuscrit espagnol, qui est en fait un journal quotidien d'un voyage, d'une expédition de conquistadors dans les terres des Indiens mayas, territoire contemporain de l'Amérique du Sud, de Mexique. La péninsule Yucatan. Et donc, au début, j'ai pas vu de Werner Herzog, j'ai pas vu de Darren Aronofsky avec The Fountain, La Fontaine. Je connais rien de ça. Et j'avais carrément, j'ai pas lu Pérez Reverte avec le tableau flamand. Donc, j'ai eu l'idée, l'impression que je crée quelque chose d'assez fraîche. De nouveau. Après, je découvre que, comme d'hab, on répète éternellement les choses qui ont été déjà créées, mais bon, c'est triste, mais c'est presque inévitable. Et donc, ce traducteur découvre, en traduisant le journal de ce voyage des conquistadors, chapitre par chapitre, qu'en fait, la mission avec laquelle les conquistadors ont été chargés, c'est de retrouver et de brûler tous les témoignages écrits de la culture maya, tous les bouquins qui ont eu, les codex, les codes. Parce qu'en haut de ce code contenait une prédiction de fin de jour. Mais l'expédition a confronté des obstacles mystérieux et dangereux qui ont décimé les conquistadors qui ont osé de participer. Et le traducteur, 500 ans après, en traduisant, comprend que, premièrement, la fin du monde prévue se passe aujourd'hui et qu'il y a des forces mystérieuses qui ont empêché à cette expédition de conquistadors de découvrir la vérité, qui commencent à empêcher aux traducteurs de traduire ce qui se passait avec eux parce que, apparemment, à la fin, il allait découvrir quelque chose. Voilà. Et donc, et ça devient un peu métaphorique. C'est plus que juste une aventure. Pas tout le monde sont satisfaits de comment le sujet se déroule à la fin, parce que, bon, mais je ne le dis pas. Peut-être qu'il y a une personne ici qui oserait de lire le bouquin, donc je ne vais pas gâcher la fin.
Et comment est-ce que tu t'es réellement beaucoup documenté sur Gemaya, sur les cultures.
Heureusement pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses connues sur les Mayas. Donc j'ai lu ce que j'ai pu. Sûrement et surtout, c'est c'est un bouquin qui s'appelle la relation de situation de choses en Yucatan, qui a été écrit par l'évêque de Yucatan, en personnage, en caractère historique, qui s'appelait Diego de Landa, qui est aussi en caractère de mon bouquin. Voilà. Donc je me suis beaucoup appuyé sur les témoignages qu'il donnait dans son bouquin, dans son livre. Et j'ai lu, bien sûr, les certaines recherches des archéologues anglais, américains. Et le détail très intéressant sur les Mayas, c'est que leur écriture a été déchiffrée, juste comme l'écriture d'Égyptien a été déchiffrée par Champollion, l'écriture de Maya a été déchiffrée par un scientifique soviétique qui a été inspiré par l'exploit de Champollion, qui s'appelait Yuri Knorozov, qui n'a jamais quitté le territoire de l'Union soviétique. Au moins, il n'est pas allé en Amérique du Sud, il ne parlait pas espagnol, il ne parlait pas des langues indigènes, et juste d'une façon soviétique, scientifique et mathématique, il a pu créer un système qui, des milliers des ans après que les hiéroglyphes mayans soient créés et pour la première fois utilisés, il a pu déchiffrer sans laisser son studio de travail, ses écritures. Voilà. Après, déjà, quand il était vieux, il a été décoré par l'ordre, je crois que le plus important, de Guatemala et du Mexique, pour avoir déchiffré l'écriture que les scientifiques, les historiens, les linguistes locaux n'ont pas pu déchiffrer. Voilà, donc c'est pour ça, c'est un autre lien. Et lui, il a aussi un caractère de ce bouquin. Donc c'est aussi en personnage historique. Et c'est intéressant, c'est un lien qui a en fait qui connecte la culture maya avec la langue russe, qui ont a priori rien à voir.
D'un autre côté, en dehors des Mayas, le roman se passe à Moscou, quasiment de manière contemporaine. Est-ce que la milice est beaucoup présente ? Il y a toujours une figure, pas totalitaire, mais très présente de la police ou du pouvoir. Est-ce que tu t'es inspiré de ce qui se passe à Moscou en ce moment et des mouvements de contestation pour écrire dans Sumerki ou...
Ouais, il faut dire que définitivement, Russie est un pays très absurde, carrément, et mystérieux, et mystique. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être expliquées d'une autre façon qu'absurde ou un mysticisme. Et voilà, donc, en parlant, c'est un autre fait qui est discuté ici dans Sumerki, c'est que nous, en fait, toujours situés sur la place centrale sacrée de notre ville, la place rouge, on a toujours une pyramide, une véritable pyramide, façon des pyramides de sacrifice maya, avec une véritable momie de quelqu'un qui a été appelé le grand chef. Donc c'est un truc, je dirais, très... je dirais pas explicable, c'est un truc plutôt inexplicable. On s'habitue à ça, on fait pas l'attention, mais c'est un truc très... comment dire, très, très ancien, très... très un peu mystérieux et très...
Primal. Primal ou primaire.
Voilà. Donc, on a des éléments de vie très contemporains. On a le Twitter, le Facebook, etc. D'un autre côté, on a quelque chose qui se date à une culture primitive et on ne pense même pas qu'on est en train de remixer les choses très primitives de l'âge de pierre, peut-être. Ou au moins de culture... Mais c'est même pas médiéval, car c'est beaucoup avant de médiéval. C'est des traditions plutôt égyptiennes, c'est un truc de pharaon. Et c'est un peu hallucinant. Mais le plus hallucinant, c'est qu'on ne fait pas attention, c'est qu'on s'habitue et pense que c'est une partie normale des vies quotidiennes d'avoir une momie de grand chef qui est enterrée dans une pyramide. Et il y a des gens qui y vont toujours, y compris les touristes étrangers, qui presque dans des bises en cercueil... De cristal dans lequel on peut toujours voir la personne qui a foutu le plus grand bordel peut-être dans l'histoire mondiale, ou une de ces personnes. Il est toujours là, donc on peut aller le voir, le visiter, voilà, le dire bonjour.
Et la place des bibliothèques dans tes romans, je pense à Métro 2033 avec Police, qui est carrément une ville bibliothèque, mais aussi avec l'agence de traduction qui se situe dans une bibliothèque. Est-ce que pour toi, c'est une volonté affichée de mettre au centre de chacun de tes livres le livre en tant que tel ? La place du livre pour toi ?
Oui, là,
dans tous tes romans, il y a des allusions au livre,
ouais,
au fait
ouais,
de lire.
C'est vrai, ouais, bon, c'est clair. Bon, j'étais un enfant des bouquins, donc j'ai lisé beaucoup quand j'étais petit. Je suis parvenu à le faire moins... Maintenant, je suis grandi, voilà. Donc maintenant, je suis une personne adulte, donc je peux même de ne pas lire. mais les livres toujours gardent leur importance très élevée, et c'est toujours un objet de culte pour moi. Donc c'est clair que, comme tout le monde, je pense, j'achète plus des bouquins juste par la curiosité, parce qu'on a toujours une façon de le lire électroniquement. Mais une fois que je suis tombé amoureux dans certains livres, je vais faire l'effort pour l'accueillir en papier et le mettre sur... quelque part, trouver un espace, une place à ma maison. Parce que ça cesse d'être juste l'information, ça devient une partie de ma vie, un objet de culte, quelque chose qu'on peut... Comment dire ? Auquel on peut prier, qu'on peut servir. Voilà, donc, et c'est clair que dans tous les autres bouquins que moi j'ai eu le malheur d'écrire, je donne une place très importante à la culture écrite et au bouquin. Une autre chose très importante, vu que moi je suis un spécialiste self-proclaimed,
autoproclamé
de post-apocalypse, je dirais que les bouquins sont peut-être une chose qui va rester, qui puisse conserver les atteintes, les achèvements de la civilisation après la fin du monde, parce qu'une fois que l'électricité se termine, on n'aura plus ni Amazon, ni e-books, ni voilà, ni Kindle, ni iPhone, ni toute la merde là. Donc la seule chose qui va rester, c'est juste les bouquins en papier. Et c'est grâce aux bouquins en papier que l'humanité pourra ou puisse garder les savoirs et les grandes découvertes qu'elle a jamais fait. Voilà.
Tes héros, un autre point qui revient souvent dans tes romans, tes héros sont souvent seuls. Il y a une part de solitude dans tous tes romans quand tu écris, où le lecteur se retrouve quasiment tout seul avec le héros et ils sont toujours en quête de quelque chose. Est-ce que c'est un trait qui caractérise tous tes personnages des romans que tu as écrits ? C'est quelque chose qui...
D'accord, donc là, c'est la première fois qu'on me pose une question comme ça, et donc c'est la première fois que je pense que je dois peut-être m'adresser en psychiatre. Ouais, parce que c'est moins inquiétant ce que tu dis. Et bon, j'ai rien à te répondre. Voilà. Dès que je reviens en Moscou, après demain, je vais visiter un médecin. Voilà. Merci.
Tes futurs projets, c'est quoi tes prochains projets d'écriture ?
Donc, je viens de parler de livre qui s'appelle Futur. Donc, il a été publié à Moscou l'année dernière. Il va être publié en France l'année prochaine. Là, je suis en train d'écrire Maître 2035. Et après, j'ai deux, trois romans ou nouvelles qui sont pas forcément de science-fiction et pas forcément de genre, quoi. Des trucs très différents. Moi, je garde toujours ma curiosité pour les autres genres et j'aimerais bien explorer ce qu'on peut faire, ce que moi je peux faire dans les autres genres. En plus, on est en train de travailler sur le sujet de notre jeu dans le monde métro. Et on essaie de lancer une série télévisée basée sur notre sujet que moi j'ai eu. Voilà, donc j'essaie de ne pas m'embêter avec des mêmes choses, essayer quelque chose de neuf toujours.
Sur pas mal de tes projets, qu'ils soient sur ton site internet, tu essaies d'étendre à d'autres médias autres que littéraires les univers que tu décris. Est-ce que tu vas continuer à interposer d'autres médias et d'autres musiques, d'autres...
Ouais. Par exemple, en lançant le livre Futur, qui parle d'ailleurs de l'immortalité et de la jeunesse éternelle, de l'ingénierie génétique, trucs comme ça. Donc ça, vu que publier un bouquin juste en ligne, c'est déjà un peu embêtant, c'est déjà fait, rien de neuf. Là, j'ai décidé de le publier sur un réseau social. Donc, il y a un réseau social russe qui s'appelle VK.com. Grosso modo, c'est quelque chose comme Facebook, mais en russe, avec beaucoup de contenu piraté, avec toute la musique imaginable, les cinémas, etc. Mais il n'y a pas de bouquin, par contre. Donc, j'ai décidé de m'auto-publier, créer une communauté... et publier chapitre par chapitre le bouquin entier en attachant les files, les fichiers PDF des chapitres et en les faisant téléchargeables. En plus, il y avait un musicien qui travaillait avec moi pour créer une bande son. Et il y avait des artistes qui créaient une galerie des images. Donc c'est devenu un projet multimédia, téléchargeable entièrement. Et c'est comme ça, donc pendant 6 mois que le projet était actif, on a eu plus ou moins 300 000 de lecteurs, et le bouquin est devenu le plus populaire science-fiction, fantasy en Russie l'année dernière. Donc malgré le fait, je veux dire, qu'il était entièrement publié en ligne, et même fait téléchargeable sur les, sur les téléphones, sur les readers, sur les planchers, les tablettes, etc. Voilà, donc on continue de faire des expériments et on va voir ce qui va se passer l'année prochaine avec Métro 2035. Il faut toujours, je crois, inventer quelque chose de neuf, d'intéressant, pour attirer l'attention des lecteurs. Et si les lecteurs, pour la plupart, sont bloqués sur les réseaux sociaux maintenant, bah, il faut y aller, les chercher et les trouver là-bas.
Il nous reste un peu de temps et comme c'est une rencontre, on vous demande aussi de participer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main.
Bonjour, donc privet. Мои друзья очень нравятся твои книги «Метро». Я не уже читал эту книгу, но я купил. Bref, ma question, du coup, c'est par rapport au jeu vidéo Métro 2034. Est-ce que tu as participé personnellement au projet, en fait ? Du coup, est-ce que c'est toi qui as vérifié chacune des
dialogues ?
Oui, voilà, des dialogues et de la patte graphique aussi du jeu vidéo.
Oui, donc je fais beaucoup d'attention. À mon avis, les jeux vidéo, c'est le Hollywood de demain. Donc il faut faire beaucoup d'attention au comment ton sujet est représenté par les créateurs des jeux vidéo. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de m'en occuper personnellement. Et c'est vrai que moi, j'ai écrit le sujet de jeux vidéo. Il était plus tard un peu coupé, adapté par les créateurs. Et après, c'était moi qui a écrit la majorité totale de dialogue, de ce que j'ai inventé des caractères, ce que 40 caractères disent entre eux. Et donc j'ai essayé de l'amener en dehors de juste en shooter et de transformer ce sujet en monde, ce jeu vidéo en monde entier dans lequel les lecteurs des bouquins puissent se plonger. S'ils veulent vraiment expérimenter cet univers d'une autre façon que juste de lire. En plus, depuis toujours, les jeux vidéo m'ont recruté une armée impressionnante de lecteurs et je ne voulais pas les décevoir en permettant en scénariste inconnu, en différent, qui n'a rien à foutre avec mon univers. D'exploiter le sujet et d'écrire n'importe quoi. Donc je pense toujours que c'est très très important que le sujet d'enjeu soit ainsi bien traité, développé, pensé et écrit qu'un sujet dans le livre, parce que c'est la continuation du même saga. Donc c'est pour ça que je traitais ça d'une façon très personnelle. Et le sujet de prochain Métro 2035, quoi qu'il s'appelle, le jeu serait aussi composé par moi-même. Voilà.
Oui. Bonjour, j'aimerais te poser une question sur quelque chose qui me paraît assez parallèle à ce que tu as fait avec Métro. C'est la saga de Hugh Howey, Silo, qui elle aussi est déclinée sous différentes formes, qui est d'une certaine manière aussi un monde post-apocalyptique. Donc, est-ce que tu le connais et quel rapprochement, quelle différence as-tu repéré ?
Voilà, donc, le petit Américain a volé mon idée. Et lui, il est venu 10 ans plus tard pour commencer. Malheureusement, les États-Unis sont le seul pays dans lequel Métro n'est pas connu, parce que les Américains s'en foutent de ce qui se passe en Europe, voilà, grosso modo. Sûrement l'Europe de l'Est. Et donc, je ne savais même pas qu'il a lancé la franchise, mais lui, il le fait 5 ans plus tard que moi je le fais. Peut-être il est mon clone américain, peut-être il lit mes pensées, je ne sais pas. Donc non, je savais même pas qu'elle a lancé un truc pareil quoi. Moi, je crois toujours que c'était C'est clair que moi je n'étais pas le premier d'exploiter la science, la fanfiction. Ouais, c'était avant. Donc la fraîcheur de mon idée, c'était d'inviter les fans de créer leur propre caractère, hein, et de le prendre ailleurs de leur pays, d'inviter des gens d'autres pays pour le faire international et interculturel. C'est clair que les fans de Harry Potter ont créé des histoires homosexuelles basées sur l'histoire d'amour de Draco Malfoy et Harry Potter. C'était un truc qui existait avant, moi. Mais par contre, moi, je donnais la liberté aux auteurs débutants de créer leur propre caractère, les mettre dans le monde univers et profiter dans certains succès que moi je crée. Voilà, donc je ne savais pas. Je n'ai pas lu Hugh Howley. Je sais qu'il existe. C'est scientifiquement prouvé, donc je ne le doute pas. Je crois que il est dégoûtant parce qu'il a réussi de faire tout ce que je voulais faire. Il vient d'avoir ses droits rachetés par Ridley Scott, ce qui depuis toujours c'était mon rêve, et le connard l'a fait. Voilà, donc je le déteste, merci pour la question.
On va prendre encore une question.
Ça marche ou pas?
Moi, j'étais avant, par contre. C'est très important. J'étais avant.
Bonjour.
Au moins, vous le saviez.
J'ai une question un petit peu plus pratique. C'est notamment par rapport aux jeux vidéo. Où est-ce qu'on peut le trouver?
Steam.
Ouais, comme tout.
Alors, je te vois. Ouais. C'est quoi la question?
Où est-ce qu'on peut trouver le jeu vidéo? Mais apparemment, j'ai eu mes réponses.
Où on pouvait trouver le jeu vidéo? Où on pouvait trouver le jeu vidéo? Sur Steam?
Il est disponible. Ah oui, sur Steam. Sur Steam, sur n'importe où. Maintenant, ils ont des marchés digitales, tout le monde, le long, et Xbox, etc. Donc c'est lancé la dernière version qui comprenne le premier et le deuxième jeu retravaillé pour les nouveaux consoles, pour le PlayStation 4 et pour l'Xbox One. C'est un peu partout, quoi. C'est leur marché digital. Et tu peux aller le trouver, Steam sûrement. Ouais.
On a encore une question.
Ma question porte sur le fait de partager l'univers avec d'autres personnes qui se logent à l'intérieur et qui inventent leurs propres histoires. Si Métro 2035 marque la fin de l'univers, est-ce qu'il marque aussi la fin de tous les univers dérivés? Est-ce que, par exemple, dans Métro 2035, vous allez reprendre des personnages, voire des intrigues qui ont été créées par d'autres dans les univers dérivés?
Déjà, je peux dire que la fin de ma saga va pas marquer la fin de la série, parce que les gens créent leurs propres personnages et je veux pas gâcher leur création. Moi, je termine mon propre histoire et je veux pas interrompre ni intervenir dans les histoires qui créent d'autres auteurs. Je ne pense pas que j'ai le droit. Si je veux prendre les caractères créés, les personnages créés par d'autres auteurs, bon, moi, je dirais que j'ai un peu trop d'ambition comme auteur pour profiter des caractères, des idées créées par les autres. Donc, je pense, pour moi, ça serait... Le plus important, ça serait de créer mon sujet, d'inscrire mon sujet dans les dizaines de sujets écrits par d'autres auteurs qui se passent déjà, qui se déroulent déjà dans les autres tunnels et stations de métro. Parce qu'une partie de bouquins de l'univers se passe dans le métro moscovite, aussi que le métro de Saint-Pétersbourg, Novosibirsk, Ukraine, Biélorussie, etc. Pas encore la France. Donc ça serait difficile de ne pas aller contre des sujets ou des caractères qui ont déjà été créés. Si je veux les emprunter, non, je pense pas. Non.
On a peut-être le temps pour une toute dernière question.
Oui. Moi, je voudrais vous demander en quoi vous êtes typiquement russe. Est-ce qu'il y a une science-fiction typiquement russe? Je sais que c'est une histoire qui est déjà longue, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Oui, d'accord. Donc, moi, je ne suis pas très sûr si je suis typiquement russe. Sûrement, vu que pour l'instant 75%, non même plus, 85% de Russes soutient l'invasion russe en Ukraine, en la Crimée, et moi je suis contre. Et donc ils me disent, tu n'es pas un Russe, tu n'es pas un patriote, toi tu as été embauché par l'Occident pour détruire notre pays dedans, etc. Donc tu es en diversant, n'importe quoi. Donc je commence à douter que je suis typiquement russe là, parce que je n'ai pas de sentiment d'une grande justice rétablie par le fait qu'on vient de voler une péninsule, même si elle est une valeur nostalgique de nos ex-compatriotes ukrainiens. Bon, c'est une réponse. Une autre, ça serait que la science-fiction soviétique est très optimiste, mais pas la science-fiction russe et pas la littérature russe. Donc, un trait caractéristique de la littérature russe, je pense, c'est qu'elle est depuis toujours la tête très déprimante. Et moi, je suis très déprimant comme auteur. Moi, je suis assez optimiste comme personnage, mais comme auteur, quand même, j'ai jamais eu comme but de divertir le lecteur. Depuis le toujours, j'ai essayé de le déprimer et de lui gâcher les sentiments, voilà, et de le faire penser, surtout. Parce que c'est par mon propre expérience, c'est par déprimant le lecteur, surtout à la fin, en l'enlevant tout l'espoir pour une bonne fin, qu'on peut forcer ce putain de lecteur de penser un peu. Voilà. Donc, c'était ça mon but, c'était ça la chose que j'ai essayé d'atteindre, d'achever depuis toujours, depuis le début. Metro 2033 est assez déprimant, Metro 2034 assez déprimant, Soumerki n'est pas vraiment déprimant à la fin, mais ça dépend, parce que c'est une fin ouverte. Ça peut vous déprimer si vous le choisissez. Voilà, donc, et c'est comme ça. Donc, c'est peut-être c'est pour ça que moi je suis un écrivain russe. Ça serait en honneur de d'être vraiment mémorisé comme un écrivain russe par les générations qui viennent.
Je crois que sur cette belle fin, on va s'arrêter là.
Je vous remercie pour m'avoir toléré pendant une heure.
Ouais. Et Dimitri sera en dédicace juste après à la librairie, donc n'hésitez pas à le rencontrer aussi.
Voilà, on va faire des dédicaces. Là, voilà. Si quelqu'un veut être déprimé, voilà, moi je serai là.
C'est le bon moment.